c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, dans une poignée de secondes, le réalisateur Cyril Dion va venir nous parler du film Animal qui sort donc mercredi dans les salles. Le film choc qu'il vous faut pas rater au cinéma. Nous aurons le plaisir également de recevoir pour la première fois dans Chute, on écoute la télé, Véronique Jeannot qui sera notre invitée exceptionnelle en fin d'émission. On parlera livre, mais aussi évidemment Anne-Marie Lazari dans Demain nous appartient. Quel est l'avenir du clan Lazari? On en parle avec elle, évidemment. Et puis coup de sens, c'est la fiction vendredi sur France 2. Michel Bernier sera notre invité exceptionnel tout à l'heure. Auria Benabé également, qui joue Betty dans Plus belle la vie, sera l'honneur aujourd'hui. Auria sera notre invité pour parler du Prime Blackout diffusé mardi sur France 3. Et puis Barbara Probst, vous savez, elle jouait la petite sœur de Tom Delorme dans Camping Paradis. La petite sœur a bien grandi, je vous le dis. Elle arrive dans la série Le Code mercredi sur France 2 et sera notre invité également pour en parler. Et on démarre tout de suite avec notre coup de cœur Ciné-choc aujourd'hui qui vous attend.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Animal de Cyril Dion, qui est notre invité aujourd'hui pour en parler. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de ce film que nous on a pu voir au Festival de Sarlat, justement en avant-première. Un film choc, avec des images choc. C'est aussi important pour pouvoir justement marquer le public, faire comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ce documentaire à travers ces deux jeunes gens que l'on va suivre dans un peu un périple autour du monde et qui vont nous faire découvrir un peu les effets dévastateurs de la surconsommation du plastique, évidemment, et des effets néfastes à court terme sur l'environnement. C'est ça que veut montrer ce film.
Ce qu'on voulait surtout, c'était que ces deux jeunes qui ont 16 ans, qui sont dans une espèce d'anxiété par rapport au futur, qui sont très engagés dans les marches climat, puissent comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi il y a le changement climatique, et surtout ce qu'on peut y faire. Donc ils partent dans un voyage, effectivement, qui les conduit à rencontrer des gens qui essayent d'agir à tous les niveaux, à la fois à l'échelle individuelle, à la fois à l'échelle politique, à la fois en réfléchissant aussi aux enjeux politiques, économiques, même philosophiques de notre présence sur cette planète, et qui essaient d'apporter des solutions.
Cyril, comment vous les avez trouvés justement, ces deux jeunes gens? Parce que c'est Bella, hein, si je me trompe pas, qu'on sent quand même beaucoup plus concerné dès le départ, et qui va embarquer justement, que Bella, qui est une jeune Anglaise, et qui va embarquer un jeune Français justement dans ce périple.
Je les ai rencontrés, Vipulan, donc, qui est le jeune Français, je l'ai rencontré dans les grèves pour le climat, la première fois que Greta Thunberg est venue à Paris. Il y avait une délégation de jeunes, dont des Français, dont Vipulan, qui m'a beaucoup touché, donc avec qui j'ai commencé à échanger beaucoup. Et ben là, je l'ai trouvé sur Twitter. J'ai commencé à suivre en fait tous ces jeunes pour essayer de comprendre aussi ce qui les animait, tous ces jeunes qui faisaient des grèves pour le climat. Et Bella était une des seules qui était très engagée sur la défense des animaux sauvages. Et donc comme c'était le thème du film, l'extinction de masse, effectivement elle était déjà très très concernée par ça, alors que Vipulan lui était très axé sur le climat. Et c'est elle qui l'emmène, et lui effectivement on voit qu'il est un peu mal à l'aise avec les animaux au début, il les touche du bout des doigts.
Ah, il y a des scènes très dures en... Parce que, franchement, il y a des choses qui sont faites aux animaux qu'on peut pas imaginer, nous, en tant que Français. Pourtant, il y a des pays, aujourd'hui, qui n'ont pas la conscience que nous, on peut avoir. Mais comment arriver à éveiller une conscience mondiale, justement?
Moi, je peux pas éveiller une conscience mondiale à moi tout seul, et personne
ne peut. Je pense qu'avec des films comme le vôtre, justement, peut-être que, justement, il y a moyen d'éveiller quand même des consciences à large spectre.
Je pense que ça passe par plein de choses différentes. Effectivement, ça passe par des films et on essaye de faire en sorte que les films aient le plus d'impact possible. Le film Demain qu'on avait fait avec Mélanie Laurent est sorti dans une trentaine de pays. Mais c'est aussi justement les mobilisations des jeunes. Greta Thunberg a fait beaucoup justement pour mobiliser, entraîner tout un tas de gens à se rendre compte que le changement climatique était quelque chose de très grave. Les médias jouent un rôle absolument déterminant. Et puis chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'un mouvement se lève, qu'il devienne irrésistible et se décide à défendre la vie.
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Vipulan et Bella, qui ont 16 ans aujourd'hui, peuvent avoir justement, peuvent dire autant de vérités, peuvent avoir cette conscience que n'ont pas aujourd'hui peut-être des gens de 50 ans qui sont quand même depuis beaucoup plus longtemps sur cette terre.
Mais déjà, leur génération est très précoce. Ils ont accès à beaucoup d'informations très vite. Ils sont de la génération d'Internet, donc tout de suite sur les réseaux sociaux, ils ont la possibilité de creuser des sujets. Et il se trouve que la question écologique est vraiment centrale pour eux. Une de leurs préoccupations majeures, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que dans 40, 50 ans, cette planète va continuer à être habitable? Donc, ils se sont beaucoup documentés, ils ont lu des bouquins, ils ont regardé des vidéos, ils ont été rencontrés des gens, ils échangent beaucoup entre eux, et ils ont un degré de connaissance, d'expertise et même de réflexion qui va effectivement plus loin que beaucoup d'adultes.
Ils ont eu accès à des endroits, le Parlement européen, ils ont eu accès à des endroits assez incroyables, tous les deux. Moi, il y a une scène qui m'a mis dans une colère noire. Je dois le dire en voyant le film. C'est quand ils s'adressent justement à ce membre du Parlement européen qui ne les écoute même pas. Ils vont le suivre jusqu'à l'ascenseur et ne les regardent pas. Comment arriver à comprendre ça? Comment arriver à comprendre qu'en plus, on dépend de ces gens-là aujourd'hui?
Là, cette séquence, en fait, ils assistent à une commission qui réfléchit à réattribuer des subventions à la pêche industrielle. Et ils vont rencontrer une activiste, Claire Nouvian, qui a réussi à faire interdire la pêche en eau profonde, qui leur explique que si on continue à subventionner la pêche industrielle, c'est vraiment vider les océans à nouveau. Donc, ils essayent d'interroger à la fin de la commission l'assistant parlementaire d'un des députés, un député espagnol, qui vote pour ça, en disant, en plus de façon assez polie, gentille...
Oui, complètement. C'est ça justement qui m'a encore plus en colère.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris cette position-là? Parce qu'on sait, nous, que ça a un impact énorme sur les océans. Et on voit que effectivement, il est d'une espèce de cynisme et d'une sorte de mépris qui montre à quel point, aujourd'hui, il y a des gens, notamment dans le monde politique, certains, pas tous, hein, mais qui sont dans une sorte de complicité avec l'industrie et qui savent pertinemment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment qu'en votant pour ces subventions, ils vont avoir un impact dramatique sur les océans, mais qu'ils décident de le faire quand même. Et c'est pour ça qu'il répond pas. Parce qu'il sait très bien qu'il y a rien à répondre. Il voit bien qu'il a affaire à deux jeunes à qui il pourra pas raconter des salades. Donc, ben, il dit rien.
Oh, c'est énervant. Animal, ça sort mercredi dans les salles. On y revient tout de suite, on va écouter un petit extrait.
Avec le temps, nous nous sommes coupés du monde sauvage, des animaux, des forêts.
Et c'est lié à une culture qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes.
Animal, c'est le film à ne pas manquer. C'est mercredi dans les salles. Cyril Dion, le réalisateur, est donc avec nous. On va revenir aussi sur ces scènes de plage indienne totalement hallucinantes. Et moi, ce qui m'a encore choqué le plus, et ça, c'est assez méconnu, c'est qu'effectivement, si nous, on a des paysages propres, des rues propres, l'Angleterre est propre, la France est propre, c'est que tout ça, ça s'en va. Et ça s'en va dans des endroits comme l'Inde où eux, après, ils doivent justement ramasser tous ces déchets plastiques qui polluent la mer, qui polluent les océans, qui tuent les animaux. Ça aussi, c'est totalement incroyable quand on voit cette plage dans l'état qu'elle était, quoi.
Ouais, on a été à Bombay où un avocat indien a décidé de nettoyer une des grandes plages de Bombay et ils ont ramassé 9000 tonnes de plastique en 3 ans. Et on a vraiment l'impression d'être dans une décharge à ciel ouvert. Ça vient à la fois du fait que en Inde, il y a très peu de systèmes de collecte des ordures, il y a très peu de systèmes de recyclage, il y a très peu de poubelles, il y a très peu d'employés municipaux qui gèrent ça, donc du coup, le plastique s'accumule, les gens ne savent pas quoi en faire, donc ils le jettent comme ça dans la nature. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre des plastiques que nous, on recycle, qui sont vendus, théoriquement, pour être valorisés, c'est le mot qui est utilisé, donc potentiellement recyclés, et qui finalement ne le sont pas, qui finissent dans des décharges, et qui, avec des précipitations, avec le vent, avec des animaux, finissent par se retrouver dans l'océan, et donc étouffe les requins, les baleines. Et le problème de ce plastique, c'est qu'il se dissout dans l'eau et qu'une fois qu'il est dans l'océan depuis un certain temps, c'est impossible de le récupérer. Donc cet avocat indien et des milliers de gens qu'il a réussi à mobiliser ont décidé d'éduquer la population, de leur apprendre à se passer de plastique ou à le recycler avec des systèmes D, donc des systèmes qui se passent aussi dans les bidonvilles, et puis d'arriver à changer la loi. Et il a réussi à faire passer une loi qui a interdit le plastique à usage unique dans tout l'état du Maharashtra et qui a permis la fermeture déjà de 80 usines de plastique.
Il y a eu un moment très émouvant aussi, vous allez voir dans le film, avec la rencontre de Bella et de Jane, qui je crois a dû être certainement son plus beau moment de tournage, et avec vraiment cette spécialiste des chimpanzés aujourd'hui qui est la plus connue mondialement.
Oui, Bella raconte que quand elle était enfant, elle lisait le National Geographic et qu'elle était complètement fan de Jane Goodall, cette primatologue qui a été vivre avec les chimpanzés en Tanzanie pendant des années, et pour elle c'était comme rencontrer, je sais pas, Britney Spears quoi, pour une jeune fille d'il y a 10 ou 15 ans, et Billie Eilish maintenant, et donc elle était toute tremblante, et c'était très beau parce que Bella dit dans le film qu'elle rêvait d'être comme Jane, et on voit qu'elle est en train de suivre un peu ses pas, toute jeune qu'elle est, et puis Jane Goodall est un être humain vraiment délicieux. Elle est extraordinairement touchante, elle est belle, elle a 85 ans. On voit des images d'archives justement du moment où elle était avec les chimpanzés. Elle raconte ça à Bella Vipulan, elle raconte tout ce qu'elle a découvert sur la proximité qu'on entretient avec le monde animal et cette séparation un peu artificielle qu'on a créée en croyant qu'on était séparés de la nature. Elle disait mais non, on fait partie de la nature, nous sommes la nature. Et si on continue à détruire comme ça les écosystèmes, c'est nous qu'on détruit ultimement.
Ça a dû créer un lien entre Bella et Vipulan justement de vivre cette aventure, de vivre ce tournage qui a duré combien de temps ?
On a tourné pendant 55 jours qui se sont étalés pendant 6 mois. Et oui, bien sûr, ça a créé un lien entre eux, ça a créé un lien entre eux et nous. L'un et l'autre, ils disent que c'est une des aventures les plus marquantes qu'ils ont vécues dans leur vie. Et on voit d'ailleurs au fur et à mesure du film qu'ils se sont beaucoup transformés.
Ça les a... pas avoir envie de s'arrêter là, honnêtement.
Non, ils s'arrêtent pas là. Vipulan a complètement changé d'idée. Là, il est en train de faire des études pour devenir biologiste. Il veut justement étudier les interactions entre le vivant et les humains et devenir chercheur. Pour l'instant, Bella veut devenir journaliste. Elle a envie justement de pouvoir enquêter sur tous ces sujets et les rendre de plus en plus visibles. Enfin, on voit bien qu'ils en ont sous le pied. On voit bien qu'ils vont faire des grandes choses.
Vous êtes fier d'eux ?
Bah oui, je suis hyper fier d'eux. Et puis, je les adore. C'est deux petits humains vraiment extraordinaires.
Ils sont très émouvants, en tout cas, tous les deux. Moi, je vous conseille vraiment Animal. Vous allez apprendre plein de choses. Je dirais que c'est un peu l'hymne du vivre ensemble, mais vivre ensemble. Pas que nous les humains, mais de vivre ensemble au sens très large du terme. Vivre avec les animaux, apprendre à vivre, à cohabiter. C'est ça aussi l'histoire du film.
Oui, exactement. C'est arriver à se dire que on est des vivants parmi les vivants et que toutes ces espèces, elles ont le droit d'être là. Elles ont, d'une certaine façon, autant le droit d'habiter cette planète que nous. Et donc, si on considère à la fois ça et à la fois le fait qu'on a besoin d'eux et d'elles, que c'est grâce au monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer, ça nous oblige à réinventer la façon dont on habite cette planète et à apprendre à cohabiter, effectivement. On a une séquence notamment dans le Jura avec Baptiste Morisot qui est un philosophe naturaliste qui est vraiment formidable et Jean-Marc Landry, où il travaille avec des éleveurs pour essayer de comprendre comment les éleveurs pourraient cohabiter avec les loups, avec les grands prédateurs. Et on voit qu'on c'est possible et que c'est non seulement possible mais que c'est passionnant parce que ça nous oblige aussi à comprendre comment les loups fonctionnent, comment ils vivent entre eux et comment ils communiquent et de trouver des moyens pour communiquer avec eux.
C'est grâce à des caméras thermiques que justement ils ont pu observer un peu tout ça. On sent quand même les éleveurs hein, dans le film qui a pu voir que ce soit les éleveurs de vaches, de brebis qui ont pu être visités, qui ont pu passer dans le film, les éleveurs de lapins aussi, qui est quand même hyper marquant en Bretagne. Ils culpabilisent mine de rien de cet élevage intensif qu'ils font, mais ils sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge parce que s'ils font pas ça de façon intensive, l'éleveur de lapins, il disait déjà, même en le faisant de manière intensive, il gagne 350 euros par mois. Enfin, c'est totalement incroyable. C'est tout le monde se remplit les poches sauf lui, quoi, en gros.
Bah, cette séquence dans un élevage intensif de lapins, oui, notre but c'est de montrer que il y a une maltraitance vis-à-vis des animaux, mais il y a une maltraitance vis-à-vis des humains aussi. Et on voit bien que cet éleveur, c'est pas un mauvais bougre. Qu'il est vraiment pris dans un système et donc c'est pas un problème individuel, c'est un problème systémique, politique, économique. Après on a essayé aussi de montrer différentes sortes d'élevage. On a été voir des brebis qui sont en bio dans les alpages, on a été voir un berger qui s'occupe d'un troupeau de vaches et qui fond en larmes quand Bella lui demande qu'est-ce que ça vous fait quand elle part à l'abattoir, parce qu'il a un petit carnet avec les noms de chaque vache, il dit qu'il les reconnaît, la façon dont elle dresse les oreilles.
C'est là qu'il culpabilise, mais à mort on le sent quoi.
Mais en tout cas, il dit qu'il doit vivre avec ce paradoxe-là, que son métier le passionne, il adore faire ce qu'il fait, qu'il adore les animaux, mais que effectivement, c'est déchirant pour lui de les voir partir. On va aussi au Bec-et-Loin, qui est une ferme en permaculture, où ils expliquent que pour faire cette agriculture sans pesticides et sans engrais, ils ont besoin d'avoir un peu d'élevage. Donc on essaye de montrer que c'est complexe, que c'est pas simplement les gentils et les méchants, que c'est pas simplement blanc ou noir, mais qu'on a besoin d'ouvrir ce sujet, d'en parler et de trouver les bonnes modalités.
Je vous invite à embarquer avec Vipulan et Bella mercredi dans les salles, au cinéma. Ils vont vous emmener dans un voyage autour du monde et en France aussi, à la découverte de ce que pourrait être peut-être le mieux vivre ensemble. C'est en tout cas le film Animal qu'il vous faut absolument aller voir, réveiller les consciences, parlez-en autour de vous. Et voilà, le bouche à oreille aussi va faire son chemin, on espère, pour qu'un maximum de monde puisse voir le film. Merci beaucoup Cyril, et continuez à nous faire des films comme ça. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec nos coups de cœur télé. Véronique Jeannot qui sera notre invité en fin d'émission. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler évidemment de notre coup de cœur télé. C'est le prime de Plus belle la vie qu'on va retrouver. Et oui, quel plaisir. C'est notre petit cadeau de fin d'année, un peu tous les ans, de retrouver un prime time événement. Et c'est l'occasion pour nous, eh bien, de mettre un des nouveaux personnages à l'honneur. Oria Benabé, qui est notre invitée, qui joue Betty, qui a fait une arrivée fracassante en octobre et qui va nous emmener dans des aventures et dans un blackout cette semaine absolument phénoménal. Mais on va parler déjà de ton arrivée. Merci d'être avec nous, Oria.
Merci à vous. Alors mon arrivée, c'est vrai qu'elle est vraiment assez fulgureuse, si je peux dire. Enfin, on a une Betty qui est vraiment nonchalante et insolente, mais à la fois avec un grand cœur, et ça on va le voir un peu plus tard. Et c'est vraiment un rôle que j'adore jouer, parce que finalement bon, pas tout évidemment, mais je me vois un peu en Betty, on a un peu la même histoire en creusant, et je me régale à le faire et je m'amuse, et je pense que c'est le plus important, et ce qui reste à venir va être hardcore, je pense.
On a l'impression que le public s'est très vite attaché en quelques jours, parce que c'est un personnage qui a fait tellement une arrivée fracassante, mais qui est solaire. On a découvert très vite qu'il y avait des fêlures, des blessures avec sa famille, ses parents, que du coup le public s'est très vite attaché à ce personnage qui était peut-être pas prévu pour rester forcément très très longtemps, mais qui, je crois, va rester un sacré bout de temps maintenant.
Bah écoutez, c'est un peu le jeu avec Plus belle, c'est qu'on sait pas vraiment combien de temps on va rester. Je pense que c'est aussi les auditeurs qui vont choisir un peu ça aussi, mais c'est vrai que je reçois énormément de messages et de bons retours, et les gens se sont très très vite attachés à Betty Solano, et puis ils l'adorent malgré un peu ses phases un peu d'hystérie. Je pense qu'ils ont reconnu son grand cœur derrière la carapace, quoi.
Elle en a fait baver à Kylian quand même, hein. Elle l'a fait ramer, hein.
Elle le fait énormément ramer, et vous allez voir, vous êtes pas au bout de votre surprise avec les hommes. Betty, elle est vraiment incroyable, mais son petit coup de cœur, c'est vrai que c'est Kylian quand même.
Comment tu la définirais, toi, justement, Oria? Comment tu la définirais, Betty?
Alors Betty, elle a ce côté-là qui est un peu nonchalante, insolente, mais finalement c'est vraiment une carapace, et elle cache énormément ses émotions derrière justement cette nonchalance. Et au final, elle a un très très grand cœur, et elle aime énormément les gens, et voilà, et elle sait se faire remarquer juste avec sa présence, et ça c'est formidable.
Quand t'es arrivée cet été pour tourner tes premières scènes sur le plateau, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit ah ouais, quand même? Quand t'es arrivé au studio d'Abel Demey, comme ça, à Marseille, tu t'attendais à ça ou pas?
Honnêtement, j'ai vu toute cette mécanique et cette force qu'ils avaient de travailler ensemble. Alors j'ai tout de suite eu envie de me plonger dans cette équipe, quoi, cette famille finalement, et être avec eux à 100%. Et honnêtement, je me suis mise dedans très très vite, et j'apprécie tout en fait. J'adore l'ambiance, j'adore le travail, et puis c'est très très formateur. Ça nous prépare aussi à de grandes choses, et c'est assez cool de pouvoir tous les jours travailler avec des équipes différentes, des réalisateurs différents, des coachs différents, des acteurs différents, et du coup ça nous fait vraiment kiffer, quoi.
C'est ton premier grand rôle?
C'est pas mon premier grand rôle, mais c'est l'un de mes premiers grands rôles.
C'est déjà bien.
C'est très très bien.
C'était quoi ton parcours avant? Raconte-nous, on t'a vu dans quoi?
Alors moi, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 15 ans, donc à côté de ça, j'ai dû arrêter pour prendre mes études, mais au final, je me suis vraiment rendu compte que ma passion à moi, c'était vraiment le cinéma, le théâtre, etc. Ensuite, j'ai passé des castings, et je suis tombée sur un casting de rue dans le 93, parce que je suis issue de banlieue dans le 93, et du coup, là-bas, c'est vrai que c'est un peu compliqué à s'ouvrir à ce genre de choses, mais malgré tout ça, je me suis accrochée et je suis partie toquer aux portes. Et un jour, on m'a ouvert la porte avec un beau casting. Et c'était une grande pièce de théâtre, c'était Les Justes d'Albert Camus, interprété par Abdelmalik, qui s'est super bien passé. Et à partir de là, je pense que je me suis accrochée et c'est parti, quoi. Let's go.
Oui, let's go. Et là, c'est ce qu'on va voir, évidemment, dans ce prime événement. Alors, qu'est-ce qui nous attend? En quelque sorte, ça commence comment? Sans trop spoiler, mais évidemment, on peut planter le décor. Comment l'intrigue commence? Elle est en train de s'installer quand même depuis maintenant plusieurs jours. Et là, ça va être un peu voilà, le feu d'artifice. Hein.
Alors, comme vous vous le doutez, Betty fait énormément de conneries. Il s'agit un peu d'une des conneries de Betty. On va se retrouver en fait enfermé dans un téléphérique pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et je vous en dis pas plus parce que sinon c'est spoilé et je vais me faire tuer peut-être. Non, mais vous allez adorer ce blackout. Ça va être franchement dingue, quoi. Enfin, sur Marseille, un blackout, vous imaginez, c'est complètement fou.
Et là, évidemment, il va en découler des histoires, évidemment, parce que tu vas te retrouver enfermé avec Kiel, avec des personnages de Bilal.
Avec le personnage de Bilal et de Noé et puis de Léa qui en fait on a totalement une personnalité différente, que ce soit dans notre jeu ou le personnage qu'on incarne. Donc ce qui fait vraiment une fusion de plusieurs personnalités ensemble, enfermées dans un même endroit. Je vous laisse imaginer le pétage de câble de Betty, quoi, vraiment.
Oui, je pense que ça va être un peu le volcan du téléphérique.
Exactement, mais vous allez voir, vous allez être très 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 surpris par la fin de ce blackout. Vraiment, vraiment. Et je pense que plusieurs personnes apprécieront encore plus Betty.
Tu vois, tu nous donnes envie de regarder là, franchement, mais direct, hein, tu vois.
Ouais, franchement, je suis assez contente du résultat qu'on a tourné. Enfin, on s'est éclaté surtout à le faire. On était vraiment bien entourés, on avait une réa formidable et des équipes formidables. Donc franchement, et j'ai beaucoup appris et je me suis éclatée. Je pense que c'est le plus important. Et voilà, aujourd'hui, bah j'ai la chance aussi de pouvoir faire autre chose à côté. Et puis
justement, tes projets, raconte. En 2022, on va te voir dans d'autres séries, cinéma, théâtre. Raconte-nous.
Ouais. Alors là, justement, on va reprendre une tournée internationale. On a une troupe de théâtre en fait avec Lothil Kourou, plusieurs gros acteurs.
Ça va.
Ouais, Sabrina Ouazani, Frédéric Cho, bref, j'en passe beaucoup. Et on va faire une tournée internationale en fait, suivie en fait d'une série qui va relier un peu, qui va parler. C'est une série musicale, théâtrale et cinéma. Donc ça sera tourné en 2022. J'ai aussi, je vous le dis, hein, j'ai été prise, je l'ai su hier, pour un rôle principal d'un film qui sortira en 2022 au cinéma et qu'on va bientôt tourner. Donc c'est mon premier vrai gros rôle au cinéma cette fois.
Donc je suis assez contente. T'es bien occupée.
Ouais, je suis bien occupée, donc c'est fantastique tout ce qui se passe pour moi. J'espère que ça va durer. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite.
Et ben en tout cas voilà, notre rayon de soleil, c'est Betty aussi, tous les soirs à 20h20 sur France 3. Notre rayon de soleil qui va se noircir un peu cette semaine du coup avec ce blackout. Mais il va revenir à soleil, j'en suis sûr.
Il reviendra, c'est sûr et certain.
Merci Auréa.
Merci à vous avez été très gentils et puis à bientôt et puis on se retrouve demain pour le blackout.
Yes, exactement. Merci Auréa et à très vite.
Merci beaucoup.
Jean-Paul.
Je suis désolé pour hier, je me suis comporté comme un con.
Non, mais c'est moi, j'ai été injuste et odieuse. Je sais pas ce qui m'a pris, je me reconnais pas en ce moment.
Moi je connais la responsable de tout ça. C'est un tout petit bout de chou qui commence à prendre beaucoup de place.
Notre coup de cœur télé est consacré à la série Le Code qui débarque mercredi sur France 2. On va y retrouver Daniel Knolobé ainsi que Christiane Millet, Nedra Yadi et Barbara Probst qui est justement notre invitée aujourd'hui pour nous parler du personnage de Claire Caldera. Bonjour Barbara.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de t'avoir, Barbara. On t'a connue toute petite dans le rôle de la sœur de Tom Delorme dans Camping Paradis. Là, on te retrouve dans un cabinet d'avocat pour une histoire un peu, je dirais, de rédemption en quelque sorte, puisqu'on va y suivre le personnage d'Idriss Thomas, avocat des riches et des puissants qui voit sa vie basculer alors qu'il est victime d'une tentative de meurtre. Il en réchappe et évidemment va essayer de se racheter une conduite en ouvrant et en s'associant dans un nouveau cabinet d'avocat dont tu fais partie. Barbara. C'est bien ça? C'est bien résumé,
oui,
tout ça?
Oui, merveilleusement bien. Et il ouvre ce cabinet dont je suis l'une des jeunes collaboratrices, voilà, la petite jeune aux côtés de Théo Frilet, qui est aussi collaborateur et qui fait ses premiers pas dans le monde pénal.
Et alors Théo, tu le retrouves parce que tu as déjà tourné avec dans Saïgon, l'été de nos 20 ans, qui était tourné en plus dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine du côté de Rochefort. Donc du coup, tu retrouves Théo?
Absolument, on s'est retrouvés. C'était un bonheur parce qu'on s'adore et que c'est un comédien génial. C'est un bonheur de jouer avec lui. Et puis c'est vrai qu'on s'aime beaucoup depuis, voilà, ça fait plus de 10 ans ce tournage à Rochefort. Avec d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Philippe Venot qui réalisait Saigon et qui nous a quittés cette année.
Oui, tout à fait.
Que j'aimais beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est une joie de retrouver Théo et on est vraiment tous les deux. En plus, on a des scènes merveilleuses parce que on est notamment collègues au sein de ce cabinet, mais aussi meilleurs amis dans l'histoire. Donc on a voilà une chouette complicité et c'était pas très difficile à jouer avec lui. Voilà.
C'est super ça. Comment tu la définirais toi, Claire Caldera, Barbara?
Ah bah Claire, c'est une jeune femme qui termine tout juste ses études, qui fait donc, comme je disais, ses premiers pas dans le monde pénal et qui est, je pense, vraiment une jeune femme de 2021, quoi, qui à la fois se cherche en tant que jeune femme, se découvre dans le monde professionnel, qui est extrêmement travailleuse et pleine d'ambition, mais aussi remplie de doutes, bah, qui se découvre, quoi, il n'y a pas vraiment d'autre mot, qui est très amoureuse d'un juge, un homme très légèrement plus âgé qu'elle, enfin, qui doit avoir, je sais pas, à peine 10 ans de plus, et qui est lui beaucoup plus aguerri, beaucoup plus sûr de lui. Et à travers son regard, elle essaye sûrement aussi de chercher un petit peu d'assurance et de poids dans ce monde-là. Mais elle, voilà, elle sait pas exactement où elle va, elle est pleine de questions et elle a pas encore toutes les réponses.
Ta rencontre avec Daniel, comment ça s'est passé? T'avais eu l'occasion de rencontrer avant déjà ou pas? Comment ça s'est passé?
Non, on se connaissait pas. Moi, je ne connaissais finalement que Théo et Christiane. Mier, avec qui j'avais déjà tourné dans Speakerine pour France 2.
Oui.
Et non, toute l'équipe, on s'est rencontrés aux lectures. On a eu beaucoup de chance d'avoir des lectures, ce qui est quand même très rare aujourd'hui sur les tournages, puisqu'il y a très peu de temps en général pour préparer un rôle. Et là, l'équipe tenait énormément, puisqu'ils nous ont vraiment présenté cette série comme une série chorale. Ils voulaient absolument qu'on puisse tous se rencontrer, parler du projet. Il y avait vraiment... voilà, c'était un désir du créateur de la série... qui s'appelle Lionel Olenga et des deux autres auteurs qui ont coécrit à trois avec Cécile Evin et Nicolas Robert. Et c'était vraiment un désir de leur part qu'on puisse se retrouver. On a eu 3 journées de lecture où ils ont vraiment ouvert ce dialogue avec nous pour à la fois parler de nos personnages, parler de l'histoire, approfondir la langue de chacun des personnages pour qu'on ait vraiment une ligne propre à nous. Et surtout qu'on se rencontre et qu'on puisse, voilà, essayer de créer cette communion, cette alchimie entre nous tous. Je pense que ça marche. Après, j'espère que, voilà, que ça plaira et j'ai hâte d'avoir les retours du public parce que c'est vrai qu'on fait surtout pour vous.
Alors, moi qui ai vu le premier épisode, nous, franchement, on est vite mis dans le bain, hein. Franchement, ça va très très vite. On est très vite mis dans le bain de l'histoire. Il y aura des guests absolument prestigieux pour cette première saison. On y retrouvera l'héroïne de Nina, qu'on va avoir plaisir à retrouver dans le premier épisode que vous verrez mercredi. Anne-Lise M, mais aussi Grégoire Bonnet aussi, vous voyez tous les soirs sur M6 dans Scène de ménage, Jérôme Bertin évidemment, Capitaine Nobu dans Plus belle la vie, qui sera là dans le 3e épisode la semaine prochaine, et puis celui qui avait joué le 2e K1, c'est Julien Baumgartner qui sera également dans cette saison avec bien de jolis invités en tout cas pour cette première saison. J'imagine, Barbara, que la première saison n'est pas forcément bouclée, que ça peut déboucher sur une suite, qu'une saison 2 est peut-être déjà dans les tiroirs. Non,
on espère, en tout cas nous on adorerait, ouais. Si le public suit et que ça leur donne envie, je crois qu'il y a des choses qui pourraient suivre.
On vous l'espère à tous. Alors toi qui, je sais, viens depuis très très longtemps en vacances dans notre région, dans l'île de Ré, là c'est pas l'île de Ré, c'est l'île, tout court. Alors tu as vu le changement ou pas entre les
Exactement.
Deux?
Exactement, oh là là, c'est un changement de température. Alors plus que très longtemps, c'est que vraiment j'y ai depuis ma naissance parce que ma grand-mère Gisèle Casatu était un peu une grande figure de l'île de Ré puisqu'elle elle est arrivée là-bas, je crois en 1900, je vais pas dire de bêtises, mais 1923, un truc comme ça. Donc la famille est plutôt implantée depuis très longtemps. Ouais. L'île est très forte dans mon cœur, ouais, une grande place.
Et on a eu l'occasion effectivement de recevoir Gisèle dans ces dernières années. C'était vraiment tellement formidable de la rencontrer. J'en garde un souvenir encore très très ému, je dois t'avouer, Barbara.
C'était un petit jour, ouais, bien sûr. Bah, je vais dans le croire parce que c'était un vrai soleil, ma grand-mère. Ouais. Absolument, une grande source d'inspiration.
Bon, le code en tout cas, c'est mercredi, c'est à 21h05, c'est sur France 2, une nouvelle série inédite à ne pas manquer avec toi Barbara. Dernière question évidemment aussi, si on t'appelle pour un épisode événement de Camping Paradis pour rejouer la sœur de Tom, est-ce que t'es prête à y retourner?
Tout dépend évidemment des dates et des possibilités, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, voilà, à qui je dois beaucoup parce que j'ai fait vraiment mes armes de jeune comédienne avec eux. C'est toujours un bonheur de les recroiser.
Ouais, et on t'a revu dans un épisode où t'étais venue faire une petite apparition.
Absolument, ouais, voilà. J'étais venue faire un petit coucou et c'est vrai que c'est des gens que j'apprécie beaucoup et qui font partie de mon chemin de jeune comédienne. Donc pourquoi pas, on sait pas de quoi la vie est faite, absolument.
Bon, merci beaucoup Barbara et puis on te dit à bientôt.
Mais avec plaisir et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
À très vite, le code mercredi sur France 2, on écoute la bande annonce, c'est parti.
Pourquoi vous dites pas la vérité? Que ma femme et tous les autres sont morts à cause de votre client?
C'est pas ce que vous croyez.
C'est pas ça être avocat, c'est pas ça.
Quand on m'a tiré dessus, ils m'ont retiré 3 balles. Mais il reste un éclat. Les médecins me donnent encore 1 an à vivre au maximum.
Coup de cœur télé consacré à la fiction Coup de sang qui sera diffusé vendredi soir, un polar sur France 2 avec Michel Bernier qui est avec nous pour en parler justement. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
C'est en pleine tournée qu'on vous retrouve, Michel. On va donner quelques dates d'ailleurs pour venir vous voir en spectacle dans les semaines qui viennent. Mais d'abord, on va parler de Coup de sang, une histoire, on va dire, de mère et de fils à couteau tiré, c'est le cas de le dire, puisque voilà, ça ne s'entend pas, on va dire, dans la famille. Il y a des vieux comptes qui vont se régler à l'occasion du meurtre de la jeune fille de la famille. Et c'est vrai que ce meurtre va réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs et de vieux comptes.
Ben oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, tous ces non-dits, toutes ces différences, toutes ces angoisses qu'on ne sait pas raconter, avec lesquelles on n'a pas osé aller, en tout cas chacun est restant un peu sur ses positions, ben, on va être obligé à ce moment crucial et difficile de la famille entre la mère et le fils d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cette gamine. Et puis en même temps, évidemment, essayer de se rapprocher puisque il faut découvrir qui a fait ça. Et qu'entre les deux, la mère et le fils, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est un polar particulier parce que c'est beaucoup de psychologie et c'est une enquête un peu hors norme. On voit rarement ce genre d'enquête parce qu'on est quand même beaucoup sur la relation entre la mère et le fils. On n'est pas dans une enquête haletante, on va dire, de ce côté-là, du côté technique. On est dans une enquête haletante du côté psychologique. Voilà.
Effectivement, parce que en fait, le meurtre de cette jeune fille va être un prétexte dans l'histoire pour pouvoir vraiment rentrer dans ce conflit et voir comment la mère et le fils vont peut-être retrouver, on ne sait pas, on verra, c'est en tout cas toute l'histoire, retrouver le chemin de la sérénité. Comment on pourrait la définir, Mireille Delgado, que vous incarnez, Michel ?
Je pense que c'est une femme certainement qui n'a pas été toujours très heureuse, ni très heureuse comme mère d'ailleurs. Elle le dit à un moment dans le film. Elle a eu une fille, mais surtout son fils, en fait, elle a l'impression que c'est lui qui a pas voulu d'elle depuis le départ. Et je pense qu'elle s'est construite un peu avec ça. C'est une femme militante, engagée, qui a donc privilégié plutôt ses manifs et ses convictions et de faire un monde plus juste par rapport à sa vie de famille. Et lui, le fils, par rapport à une femme militante, évidemment, il est devenu inspecteur de police. Il s'est éloigné d'elle un peu aussi en la provoquant. Lui, il a vécu une histoire d'amour avec, il a eu cette gamine donc qu'on va retrouver morte, avec laquelle ça s'est mal passé. Et puis là, il a une deuxième femme. Toute sa vie sentimentale est compliquée. Et on sent bien quand même qu'au travers de tout ça, on voit bien que si on n'est pas aimé dès le départ dans sa vie, les choses sont plus difficiles à vivre plus tard. Moi, c'est la réflexion que je me suis faite tout le temps sur ce tournage. À chaque fois, je me disais, surtout que ce personnage de Mireille, il est un peu loin de moi, dans le sens où moi, j'ai absolument pas ces rapports-là avec mes enfants. Mais je me disais, mais c'est terrible, en fait. Quand on ne peut pas s'exprimer, donner l'amour à ses enfants, on leur fait pas de cadeau, quoi. Hein. On leur donne un peu l'envie de se révolter ou d'être malheureux, en fait, toute leur vie, quoi, de se chercher. Et vraiment, c'est un constat que j'ai fait moi pendant ce tournage. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit oui, exactement, c'est vraiment ça, quoi. Il faut faire attention à nos enfants.
Exactement. Alors surtout que Mireille est la seule, parce qu'il y a un coupable, on va dire, quasiment désigné d'office en la personne de Ryan Kowalski dans cette histoire. Et Mireille est la seule à être persuadée que Ryan n'est pas coupable du tout, alors que tout le désignerait. Mais sans aveu, voilà, Mireille est sa seule, on va dire, qui le défend, quoi.
Bah, parce qu'elle l'a connu enfant, c'est le fils de sa meilleure amie. Elle sait les rapports qu'ils avaient tous les deux. Elle sait l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, mais qui était aussi un amour je dirais, comme les amours enfantines, qui ne sont pas obligatoirement des amours qui s'expriment, je veux dire, on ne se marie pas obligatoirement, etc. Mais c'est des amitiés d'enfance qui sont fortes. Et je pense que Mireille, elle se dit, cette amitié-là, elle n'a pas pu engendrer ça. Et puis, en même temps, le fils, David Kamenos, donc, lui, il a besoin d'un coupable, vite, parce qu'il n'y a pas plus horrible que ça dans la vie. Donc, il va un coupable très vite. C'est comme si c'était une façon de trouver son salut, quoi. Quand on lui dit que c'est peut-être pas lui, alors évidemment, le conflit entre la mère et le fils ne fait que s'envenimer, c'est clair.
Alors le spectacle Vive Demain est en pleine tournée à travers toute la France, Michel, pour le coup, puisque là c'est en pleine tournée. Alors ça passera le 7 décembre par exemple à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand le 5 janvier. Ça passera également du côté de Marseille le 7 janvier dans notre région, ou pas très loin, notamment à Mouilleron-le-Captif le 19 janvier prochain, oui, en Vendée. Ça passera également à Bordeaux au Théâtre Féminin le 3 mars. Et puis ça passera également à Paris à la Salle Payel du 11 au 12 mars prochain. Des rendez-vous avec le public. Ça fait du bien de retrouver son public, j'imagine, Michel.
Ah, mais oui, surtout que ça faisait presque 2 ans et que, en fait, j'étais en pleine tournée et que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, ça a été assez violent et surtout, je suis vraiment désolée pour le public qui était prêt à venir nous voir. Je dis nous parce que on est tous les artistes à avoir été dans le même sac, évidemment, avec des dates reportées, ce qui était extrêmement compliqué, et pour le public et pour nous, évidemment. Et là, ça y est, ça repart, donc on retourne dans les salles, c'est un bonheur de pouvoir retrouver cette complicité, le rire des gens, enfin bon, on a l'impression que la vie, ça y est en train de reprendre, donc on va pas la lâcher.
Non, il faut essayer, oui, effectivement.
Et c'est vraiment un bonheur, je crois que plus personne aujourd'hui n'aurait envie de revenir en arrière, c'est sûr. Donc il faut se protéger, il faut faire attention. Voilà, on doit vivre avec ce monde-là, c'est comme ça. Mais bon, si on veut se retrouver, ben voilà, il faut faire les choses qu'il faut, quoi. Voilà.
Des nouvelles d'une saison 7 pour la stagiaire ?
On va commencer la saison 8, je pense, en printemps prochain. Voilà.
Donc la saison 7 va pas tarder à être diffusée, du coup ?
Normalement, c'est diffusé en début d'année, donc. Je pense vers février, un truc comme ça, quoi. Dans le genre.
Bon, je sens qu'on va se réentendre très vite alors, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne tournée et puis à très vite.
Merci, bonne journée et à très vite. Au revoir.
Monsieur Kowalski.
Quand je l'ai vue comme ça par terre.
Tu l'as retrouvée morte à côté de ta voiture et t'es rentrée chez toi, à pied, 15 kilomètres.
Expliquez-nous calmement. Vous étiez garé sur ce chemin à l'écart avec cette jeune femme, Justine Delgado, c'est ça ?
On était là pour discuter. On venait souvent là. Elle adorait ce coin. Alors à un moment, je suis sorti de la voiture pour prendre l'air.
Oui, tu n'es comme ça, tu sors.
Et j'ai marché pas longtemps, quelques minutes sur le chemin, et quand je suis revenu, elle était... Je comprends pas ce qui s'est passé.
Il était quelle heure, quand vous l'avez retrouvée morte ?
Et on va reparler de la série Hashtag Boomer qui a débarqué jeudi dernier sur OCS. Vous allez pouvoir suivre la suite, on vous l'avait promis. Les comédiens sont avec nous aujourd'hui. Bellamine Abdelmalek, accompagnée d'Alison Chassagne et Manon Azem, sont avec nous. Bonjour à tous les trois. On va présenter vos personnages à tous les trois. Et pourquoi pas, on va commencer par Margot.
Margot, elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Elle n'y pense jamais, mais elle adore la mode, par exemple. Donc quand elle voit une tenue dans une vitrine de magasin qui lui plaît, elle achète tout. Elle se pose aucune question, elle trace. Et elle vit pour les autres, elle vit pour son père qui est en dépression. Elle gère le karaoké de ses parents, le Shaolin Club. Elle est là pour ses amis. Elle ne dit jamais de gros mots. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête et elle est assez touchante. Elle pourrait ressembler un peu au père de Modern Family, Phil Dunphy, ou un peu à Phoebe Buffay dans Friends. Voilà.
Alors, on va présenter Dani.
Ouais. Alors, Dani est une nail artiste, fille unique, fille de Christiane, qui est, comment on appelle quand on arrache les poils? Elle est esthéticienne. Et lien énorme avec sa mère, et père inconnu. Et donc, Dani, a un lien extrêmement fort avec sa mère, extrêmement poussé, si ce n'est même un peu nocif.
Joué par Christine City, merveilleusement bien.
Par Christine City. Et donc, il y a ce lien très fort, mais aussi un peu border, où on a un besoin de culpabiliser l'autre dans les deux sens. Et aussi, surtout, parce qu'en fait, elle ne sait pas qui est son père, et elle en veut beaucoup à sa mère pour ça. Et donc, sur toute cette saison 1, il y a une quête très importante d'origine, d'identité aussi.
Alors, ce look, combien de temps de maquillage, combien de temps de coiffage, combien de temps de préparation pour nous faire ce look où on te reconnaît à peine dès le départ. Mais oui, c'est bien elle.
Écoute, quand Constance a eu cette idée de me mettre des dreads, je trouvais ça hyper cool. Cut, je me suis retrouvée chez le coiffeur, à rentrer à 8h30, à ressortir à 20h. Donc une journée entière de pose de dread, je peux te dire que j'ai douillé. J'ai vécu un tournage extrêmement intense, surtout aussi par rapport aux accessoires. Première fois.
On va présenter Hassan, qui lui est un peu dépassé par les événements.
Il a peur en tout cas. Il a peur, il s'interroge, il se demande vraiment s'il est pas en train de faire une énorme connerie.
C'est le doute qui s'installe chez lui.
Exactement, le doute de reproduire un schéma qu'il a l'impression, un schéma familial qu'il a l'impression d'être chaotique, mais qui voilà, il se base sur ce qu'il a vécu avec ses parents, sur ce que ses parents lui ont appris, lui ont donné. Et il est terrifié à l'idée de reproduire la même chose et donc il passe son temps à se demander s'il n'est pas en train de faire une grosse bêtise. Et voilà.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour cette nouvelle série OCS Signature. À bientôt.
Est-ce que tu sais comment on peut ajouter des petits dessins qui sourient?
Les smileys.
Votre génération va mourir tellement jeune.
C'est Margot, je crois que j'ai déconné.
J'ai dépensé 980€ en sextoy.
Et dans un instant, Véronique Jeannot nous rejoint, alors surtout, bougez pas, on revient tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et notre invitée aujourd'hui, Véronique Jeannot, pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Quel bonheur de vous accueillir, Véronique, à mes côtés. Et merci d'être avec nous.
Mais bonjour.
C'est un plaisir.
Alors évidemment, Véronique, c'est Anne-Marie Lazzari, le clan Lazzari, qui nous a fait tant vibrer pendant de nombreux mois dans Demain nous appartient. Véronique, ça a été vraiment un joli rôle pendant tous ces mois, et j'espère que c'est pas fini.
Alors je ne sais pas si c'est pas fini ou pas, c'est un peu prématuré pour le dire. En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ces deux arches, parce qu'en fait il y a eu deux arches importantes, dont la dernière avec Franck Simonin, et ça a été un vrai plaisir. J'ai rencontré à l'occasion de Demain nous appartient mes deux filles, donc Juliette Rezanini et Solène Hébert, et ça c'est c'est comme si c'était mes filles, tellement il y a eu c'est une vraie rencontre. Donc ça c'est les bonheurs de ce métier.
En tout cas, c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression que c'est une véritable famille de cœur que vous êtes créée avec Solène et Juliette. On sent vraiment une alchimie entre vous trois assez incroyable. Alors c'est vrai que c'est l'effet de la quotidienne aussi, vous tournez énormément, vous travaillez énormément ensemble pendant plusieurs mois d'affilée, donc ça crée vraiment un rapprochement, peut-être plus encore que sur un téléfilm unitaire ou sur un film de cinéma où un mois, deux mois puis c'est fini. Là vous restez longtemps quoi.
Oui, mais c'est pas une question de temps, c'est l'intensité de ce qu'on vit. On sait très bien, c'est comme une histoire d'amour, vous pouvez vivre quelque chose pendant des années qui finalement vous laisse moins d'empreintes que quelque chose que vous vivez 6 mois et qui est d'une intensité, d'une passion folle. Ça n'a pas grand chose à faire, avoir le temps. C'est vraiment, avec Juliette et Solène, c'est ce que je vous ai dit, c'est une rencontre. Il s'est vraiment passé quelque chose de tellement joli. Et c'est tout. C'est surtout ça, c'est l'intensité de l'émotion qu'on a partagée. On est très triste en fait qu'on nous ait fait arrêter de jouer ensemble, en fait, que les auteurs ne nous aient pas redonné plus de choses à jouer ensemble, parce que je trouve que la famille était chouette, et c'est vrai qu'on est un petit peu triste de tout ça, toutes les trois en fait.
Il y a moyen, je pense, de raconter encore des belles choses, j'espère, dans les mois à venir, et le public aussi est très attaché à cette famille.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que le public est très attaché à cette famille. Il semblerait que la chaîne aussi soit très attachée à cette famille, donc je ne comprends pas bien ce qui se passe.
Il y a eu des scènes très fortes entre vous trois, même avec Franck, hein, il y a eu des scènes extrêmement fortes en émotion. Est-ce qu'il y en a une qui ressort particulièrement, une qui a été difficile, ou avec vos deux filles de cœur, même avec Bernard Menès peut-être à l'époque, qui jouait votre mari?
On est heureux en fait quand on joue une scène qui a vraiment du sens, du cœur. Donc c'est bien sûr qu'on y met du sens, bien sûr qu'on y met de l'émotion, bien sûr qu'on souffre, mais en même temps c'est un plaisir masochiste, parce qu'on sait qu'on joue quelque chose de chouette, une belle scène, une belle séquence qui est écrite. Donc ça c'est plutôt jouissif, parce que dans une quotidienne il y a beaucoup de séquences de remplissage quand même. Donc quand il y a une jolie séquence, on est heureux, et on est heureux de partager ça. C'est compliqué quand on n'est pas comédien de le comprendre, mais voilà, nous avec Juliette on disait waouh, ça, il y a vraiment un truc à jouer, on était heureux de jouer ça. Alors après on n'a pas le temps de se dire quelque part si c'est difficile ou pas, on se balance dedans. On a tellement peu de temps pour jouer dans une quotidienne, c'est pas comme le cinéma. On a vraiment très peu de temps pour nous. Le temps est plus pour la technique, position de caméra, éclairage, mais nous, on a très peu de temps pour jouer. Faut le savoir quand même. Le maximum de temps n'est pas sur les comédiens. Donc, on a pas beaucoup de filets. Alors, on sait qu'on se fait confiance, et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, quand on aime, comme avec Franck, on aimait jouer ensemble. On aimait jouer avec, j'ai aimé jouer avec Solène, j'ai aimé jouer avec Juliette, j'ai aimé jouer avec Franck. On se faisait confiance, on sachait, on était sur le bonheur de jouer ensemble. Donc, je peux pas dire qu'il y a des scènes difficiles. On est dans la recherche de ce qu'on peut trouver tout d'un coup quand on fait la première scène, de ce qu'on va pouvoir améliorer si on a la chance d'en faire une deuxième ou une troisième. De se dire, voilà, oh, là, on a senti que ça passait, allez, on va à fond dans cette direction-là. C'est presque un jeu de piste. La piste étant l'émotion qu'on ressent quand on la donne et que ça rebondit. Bon, voilà, je m'étale un petit peu, c'est sur du bonheur que je m'étale.
Ouais, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Et moi, je suis un enfant de Pause Café. J'ai grandi avec Joël Mazar, Pause Café, avec des fois, voilà, une enfance pas toujours facile, mais cette assistante sociale nous faisait du bien. Pause Café, Pause Tendresse, on a tous suivi ça. Qu'est-ce qui reste de cette époque aussi? Parce que le public, il est resté marqué par cette époque-là, par ce rôle aussi, et on se rend compte que 30 ans, 35 ans après, elle est toujours là aussi, Joël Mazar.
Oui, ça c'est formidable. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça a marqué trois générations. La génération des parents qui a tellement aimé cette série qu'il l'a montré aux enfants. Qu'elle montre aux petits-enfants. Et c'est magique. Moi, au début, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me disais, j'en avais marre de porter des étiquettes un peu post-café. Mais je suis tellement contente de voir combien ça a marqué les générations et combien ça a donné de l'espoir à énormément de jeunes à l'époque. Ça a été combien ça a aussi suscité de vocations. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je dis, mais quelle chance! Quelle merveille d'avoir fait ce rôle, d'avoir pu incarner Pause Café, d'avoir autant été en fusion et en osmose avec ce personnage qui a permis d'atteindre autant de public. Et à l'époque, on faisait du 40-50% d'audience. C'était énorme. Il n'y avait pas le même nombre de chaînes. Et les gens étaient, mais accro Pause Café. C'était extraordinaire. Et moi, j'ai vécu quelque chose de formidable parce qu'en plus, je tournais avec un metteur en scène que j'adorais, qui était Serge Leroy. J'ai rencontré des comédiens magnifiques. Et qui débutait, il y avait entre autres, il y avait Marc Lavoine, il y avait Clovis Cornillac et sa maman, Myriam Boyer, il y avait Benoît Magimel qui débutait, il y avait des comédiens confirmés comme Jacques François, l'irremplaçable, l'inénarrable Jacques François que j'adorais. Il était extraordinaire dans le rôle du proviseur. Et quelle gentillesse, quelle humilité. Quand je pense à Jacques François, je pense aussi à Jean Bouise, que j'ai la chance, le bonheur de connaître et de tourner, avec qui j'ai tourné la dernière image. C'est un peu cette même énergie. Gens comme ça qui ont l'air un peu rigides et qui sont d'une humilité, d'une humanité extraordinaire. J'ai rencontré des tellement belles personnes à travers le temps dans mon métier. C'est un cadeau de la vie, tout ça.
Ce qui est beau, c'est d'avoir un personnage dans une carrière qui marque l'histoire de la télévision à jamais. Parce que je suis sûr que dans 20 ans, on parlera encore de Pause Café. Et c'est quelque chose qui reste dans la mémoire de la télévision. Peut-être que des séries aujourd'hui comme Le Capitaine Marlowe restera aussi dans les mémoires de la télévision. Mais c'est beau d'avoir un personnage comme ça qui va rester, qui reste et qui perdure.
Parce que c'est un personnage qui parlait aux gens. C'est un personnage qui parlait au cœur des gens. Les gens ont tous besoin d'écoute, ont besoin de tendresse, ont besoin de sentir entendu. Et Pause Café, c'était un cœur grand ouvert. C'était un œil sur l'autre. Voilà, elle parlait la langue du cœur. C'est pas une enquêteuse, c'était quelqu'un qui se mettait juste à l'écoute et à la disposition du destin des gens. Et voilà, et ça c'est intemporel et c'est éternel.
Les projets, on termine par ça, Véronique.
Alors, les projets, ça n'a rien à voir avec la télé ou le cinéma, ça a à voir avec la chanson. La chanson pour les enfants. Je suis en train de faire un album de berceuses, je me régale, je réécris des textes de berceuses du monde entier et qui sont internationalement connues. Et donc je réécris les textes et je me régale parce que je me dis dans cette période qui est difficile pour le cœur, vraiment, l'âme souffre. On est à une bascule, à mon avis, du monde qui est très violente pour les gens sensibles. Et même moins sensible. Et je me dis qu'écrire pour les enfants, essayer de leur donner de la douceur, de l'amour et de belles vibrations, et ben c'est important. Donc j'y mets beaucoup de soins et de tendresse. Et je sais pas encore comment va s'appeler. Et il sortira certainement en début d'année.
On en reparlera, en tout cas vous serez la bienvenue. Merci Véronique d'avoir été avec nous et puis on espère aussi peut-être bientôt un retour du clan Lazari pour de nouvelles intrigues en 2022.
Mais je pense qu'ils ont encore des choses à dire, les Lazari.
J'en suis sûr.
C'est dommage de les avoir mis de côté pour l'instant, vraiment.
Merci beaucoup Véronique, à bientôt.
À bientôt, au revoir, bonne journée à vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir Aurélie Saada, réalisatrice du très beau film Rose qui sortira le 8 décembre prochain dans les salles. Elle sera accompagnée de Horatica et Grégory Montel qui seront nos invités exceptionnels pour la sortie de son premier film. Nous aurons également une page spéciale Miss France avec nos trois Miss régionales. Ambre Andrieux, Julie Bève et Lolita Ferrari seront nos invités en pleine répétition et nous offriront quelques minutes sur votre antenne pour nous parler de leur expérience qu'elles sont en train de vivre actuellement. Il y aura aussi bien sûr bien d'autres surprises qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure de la semaine sur nos réseaux sociaux. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.